s'approche, tu as chair de poule en vous le racontant, c'est terrible. Il se rapproche d'elle et il lui donne des sons. Et comme c'est des chants indiens qu'on connaît absolument pas ici, mais d'une maîtrise vocale, enfin vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il lui lance un son après l'autre. Au début, elle répond pas, il y a une espèce de silence insoutenable. Et petit à petit, on se rend compte que ces sons lancés par lui entrent dans son inconscient, atteignent une couche très profonde de l'époque quand elle était encore chanteuse, et elle, tout à coup, elle émet un son. Et ce moment-là, dans un film de 3 heures, il dure peut-être 15 secondes ou 10 secondes. C'est ça, un film de femme, enfin.
Donc la musique, revit, la femme et cette sensibilité.
Elle revit. Et alors, c'est clair, elle a plusieurs hommes autour d'elle, il y a ceux qui la détruisent et tout, mais à la fin, c'est la femme qui gagne, c'est la femme à qui on donne la vie, à qui on donne la parole.
Et ce film réalisé par un homme. Donc ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas sentir une
sensibilité
féminine.
Absolument. Alors ça, c'est très, très intéressant. Oui, vraiment.
Il y a des films réalisés par des femmes qui sont très diverses les uns des autres. On voit un film réalisé par une indienne, mais qui vit beaucoup en Angleterre, qui parlera de femmes indiennes en Angleterre. On voit une femme iranienne qui parle de situation de deux femmes en Iran. Une femme hollandaise qui parle d'une paysanne en Namibie. C'est dans Le feu est en nous, qui est un documentaire. Et puis un court-métrage d'une femme vietnamienne qui raconte visiblement sa propre histoire, vous me disiez tout à l'heure.
Ah non, attention. Alors on s'est mal compris. Madame Dung, c'est réalisé par un homme. Hein.
C'est réalisé par un homme.
Oui, c'est un cinéaste vietnamien.
Alors là aussi, des thèmes qui ne sont pas à proprement parler féministes, dans le sens où elles évoquent pas une lutte, mais des portraits de femmes. Ça aussi, c'était important pour vous ?
Ah, ça va beaucoup plus loin que le portrait. Je suis catégorique, ça va dans l'imaginaire. Hein. Qui dit portrait, dit un peu documentaire, et puis portrait, ça fait toujours encadré. On imagine toujours qu'il y a trois baguettes de bois autour. Non, non, c'est ce qui rejoint, je vais dire peut-être les titres, c'est qu'il y a Badji on the Beach, qu'on a pu voir à Locarno, Badji à la plage, il y a Narges, qui est le film iranien, La couleur du vent, qui est ce court-métrage hindou, et puis Ce feu en nous, dont vous venez de parler aussi, qui a été tourné en Namibie. Ce qui réunit ces films-là tournés par des femmes, sont qu'elles osent toutes casser les cadres dont on vient de parler. Ces baguettes de bois qu'on peut mettre autour ou la forme de l'écran, ce côté carré ne convient absolument pas au film fait par les femmes. Ça déborde de tous les côtés, mais positivement. C'est-à-dire ça envahit le spectateur, ça envahit la salle. Badji envahit la salle par un humour elle est contre le racisme, mais d'une manière totalement féminine. Narges, elle parle de la mort et d'une amitié de deux femmes autour d'un homme, avec une générosité de ces deux femmes entre elles, comme nous, femmes, on vit probablement peu dans la vie quotidienne quand il s'agit de garder un homme pour nous. Elles apportent une nouveauté. Comment vivre une relation ? La couleur du vent, c'est un petit court-métrage, un premier court-métrage hindou, aussi sur une femme qui rêve, qui n'a pas de travail, qui est au chômage et qui passe son temps à regarder par la fenêtre. On ne nous montre jamais ce qu'elle voit, mais c'est absolument extraordinaire. On voit que ces choses qu'elle voit, qui sont la vie quotidienne, c'est un film en noir-blanc. Le film est tellement en noir-blanc qu'on voit la couleur, parce qu'elle nous la donne à voir, cette réalisatrice. On voit les citrons, on voit le brun de la pelure d'oignon, et tout ça est en noir-blanc. Ce feu en nous, la même chose, c'est une paysanne qui s'appelle Aude, qui vit avec ses 7 enfants, dont le mari a dû partir en ville. Elle a réussi, la réalisatrice, et je pense qu'un homme n'aurait pas réussi ça, la même chose. Elle s'est glissée dans la famille. La réalisatrice devient quasiment le 8e enfant au milieu de ce village de Namibie. Et puis, elle dort par terre. On sent que la caméra dort par terre avec elle. Et elle capte les petites discussions qu'il y a le soir avant de s'endormir. C'est absolument extraordinaire. La femme a une faculté de discrétion quand il s'agit d'aller filmer d'autres femmes, qui est assez unique.
Donc un regard quand même particulier, même quand tout le monde parle des femmes, hommes ou femmes, le regard de la femme se repère, à votre avis ?
En tant que réalisatrice, moi, je dirais oui.
Et donc, en tant que programmatrice, c'est ce que vous avez voulu à un moment donné montrer en choisissant certains
films ? J'ai envie de prendre un exemple que tout le monde a vu, qui n'a rien à voir avec le Festival du film de Fribourg. Oui, par exemple, le piano, que tout le monde a vu, je pense, la chanson de piano. Enfin, le piano, moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que l'érotisme, la manière dont cette femme filme l'érotisme, moi, je ne l'ai jamais vu filmer comme ça par un homme. Le trou dans le bas, où la caméra s'approche, où la manière de filmer les corps, c'est pas mélangeable. Il y a des films magnifiques sur le corps, que ce soit Antonioni ou autre, mais tout à coup, dans ce film-là, j'avais l'impression de reconnaître mon propre corps à moi, mes propres désirs à moi, et puis pas vu à travers les yeux de quelqu'un d'autre. On a réellement une sensibilité de cinéaste qui est propre, qui est la nôtre, et puis alors il faut la revendiquer jusqu'au bout.
Mais Dominique Deriva, avec l'enthousiasme que vous montrez pour ces films, c'est bien dommage que les gens ne suivent pas plus attentivement cette sélection. Vous devriez faire partager votre enthousiasme aux spectateurs un peu plus. En tout cas, merci de nous l'avoir fait partager. Et j'espère que de nombreux jeunes voix verront ces films. Est-ce qu'on sait déjà les films qui se verront à Genève ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, deux de ces films, des longs-métrages, seront distribués par Trigon Film pour 3 femmes en Palestine, que vous pourrez voir en salle et qu'il faut rater sous aucun prétexte. Et puis Badgie on the Beach, donc le fameux qui avait fait succès à Locarno et qui, lui, sera aussi distribué en salle.
Donc Badgie on the Beach, c'est l'histoire de ces femmes indiennes qui vivent en Angleterre et qui vont...
Et qui partent à la plage toute une journée et qui en reviennent complètement transformées.
Merci, Dominique. Voilà, alors il reste un dernier volet de ma visite à Fribourg que j'ai envie de vous faire partager à propos du Festival du film de Fribourg. Eh bien, c'est justement le film dont vient de parler Dominique Deriva, c'est « Les trois femmes en Palestine », de son vrai nom, à travers le voile de l'exil. Parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi, il semblerait, m'a dit le réalisateur David Benchetrit, eh bien, il semblerait que pour le public suisse, il faille expliquer un peu de quoi il s'agit. D'où cette traduction complètement absurde qui n'a rien à voir avec le titre original de « Trois femmes en Palestine », alors que le vrai titre, c'est « À travers le voile de l'exil ». Le réalisateur David Benchetrit a pourtant bien précisé que lui voulait donner une idée de poésie qui est à l'image de son film. Son film est un documentaire sur trois femmes, trois portraits de femmes palestiniennes qui vivent dans les territoires occupés. Mais trois portraits qui vont bien au-delà d'une prise de position politique. Il va vous en parler, vous le découvrirez. Je pourrais vous dire, vous donner des centaines d'images magnifiques que contient ce film. C'est vraiment des portraits absolument splendides d'une force incroyable. Trois femmes, une première femme qui vit à Gaza dans le camp de Shati, qui était une militante de l'OLP. Elle est devenue militante d'ailleurs en s'enfuyant de chez elle où son père croyait qu'elle draguait avec des garçons alors qu'elle était en train de commencer à militer. Elle s'enfuit et elle va travailler avec des gens de l'OLP pour finir par se faire arrêter, passer 12 ans de sa vie en prison jusqu'à 25 ans. Et quand elle sortira de prison, après avoir perdu la bonne partie de sa jeunesse, eh bien elle se retrouvera, comme elle le dit elle-même, prisonnière dans sa famille, comme toutes les autres femmes de Gaza et les autres femmes arabes. D'avoir été militante ne lui a accordé strictement aucune indépendance, aucune liberté. Elle est prisonnière comme les autres femmes de Gaza. Et sa famille le lui fait bien sentir. D'ailleurs, à tout bout de champ, on est en train de lui répéter, parce qu'elle est toujours célibataire quand elle rentre chez elle, « Ah, voilà la femme de la maison !» Et à tous les repas, ça recommence. La mère lui dit « Ma fille, quand est-ce que tu te maries ?» La vie d'une femme, c'est de se marier. Heureusement qu'elle a un peu son frère qui essaye de dire « Mais enfin, mère, ça suffit, on ne va pas relancer, la rattaquer chaque fois. » Mais visiblement, ceci pèse très lourd sur elle. Et par moments, la caméra saisit un regard très très lourd de sens de cette femme appuyée seule dans sa chambre contre un mur et qui, ironie du sort, regarde des extraits de Dallas à la télévision israélienne. Et puis une deuxième femme qui, elle, est palestinienne, qui a vécu en Israël. Pendant longtemps, elle est restée à Haïfa, même après la création de l'État d'Israël, et va vivre jusqu'en 67. Là, 67, elle va décider de quitter, elle va devoir quitter. Jusque-là, elle était engagée au sein du Parti communiste israélien, qui réunissait à la fois des Juifs et des Arabes. Et puis la guerre va obliger tout le monde à partir. Avec sa famille, elle entraîne sa famille à Gaza, qui est la famille de son mari. Eux sont tous des chrétiens orthodoxes. Ils sont donc différents. Ils étaient différents en Israël et ils seront très différents à Gaza. Elle devra lutter pendant des années à tout expliquer, chaque mot, chaque geste qu'elle fera pour qu'enfin on veuille bien l'accepter. Il ne faut pas oublier de dire que c'est une Palestinienne riche, une Palestinienne bourgeoise et que cela pèse bien sûr dans ses rapports avec cette immense majorité de femmes et de gens qui vivent dans les camps de Gaza qui sont très pauvres. La troisième femme, c'est un troisième portrait magnifique encore dans la force du regard et du portrait de la femme. C'est une femme paysanne qui vit dans un autre camp de réfugiés, celui de Ain Sultan, près de Jéricho. Et on découvre avec cette femme que beaucoup de gens, comme vous le savez bien, n'ont plus de terre, ont dû quitter leur terre, mais se retrouvent dans les camps à devoir travailler parfois, aussi aux ironies du sort, pour des plus riches Palestiniens qui ont réussi à se racheter des terres dans les territoires occupés ou à les garder. Et elle, de mettre en avant le fait qu'elle en veut à sa famille d'avoir vendu sa terre, qu'elle se trouve exilée sur sa propre terre et qu'elle vit aujourd'hui dans un camp déserté par tout le monde parce que peu de gens ont voulu rester dans ce camp, dans la vallée du Jourdain, mais la vallée la plus désertique et la plus sèche, où il ne semble qu'il n'y ait plus que quelques femmes qui habitent. Et des scènes magnifiques entre cette femme qui se fait lire le journal et les nouvelles du monde par une petite fille alors qu'elle est en train de peigner les cheveux d'une autre petite fille, ou bien en train de s'occuper de ses chèvres ou, tout en fumant sa cigarette, de nourrir ses pigeons. Bref, il y aurait beaucoup de choses à rapporter de ce film. Il est magnifique et vous aurez, j'espère, la possibilité, en tout cas prenez-la, d'aller le voir quand il passera à Genève au CAC Voltaire, parce que c'est un des rares de cette sélection de femmes qui sera montré à Genève, avec encore le documentaire qui a pour titre « Le feu en nous » et qui évoque la vie de cette paysanne en Namibie dont parlait tout à l'heure Dominique de Riva. Alors tout de suite, je vous propose d'écouter David Benchetrit, donc le réalisateur de ce film. Et ce qui m'a frappé, et c'est avec ça que je vais commencer ma conversation avec lui, c'est que son film a en quelque sorte une double signature. David Benchetrit. Ô nuit, comme tu m'as fait marcher pieds nus. Si lourd est le fardeau que mes épaules s'affaissent. Ne croyez pas que notre long exil, ô mère, vous a fait sombrer dans l'oubli. Plus se prolonge notre exil, plus je pense à vous.
dans mon cœur. Jamal, mon cousin. Jamal, mon cousin, embrasse mon père et ma mère. Allège le poids de mon cœur. Et avec ces mots, salut ma sœur bien-aimée qui vit si loin de moi. La chanson que vous venez d'entendre, c'est celle qui commence le film. Et j'avais envie de vous la faire écouter juste avant d'entendre mon entretien avec David Ben-Sherit.
Alors, ce qu'il y a de très particulier donc, dans ce film, on le dit en un mot, il raconte l'histoire de trois femmes palestiniennes. Mais ce qui m'a d'abord frappé au premier abord, et ce qui doit, je suppose, frapper pas mal de gens, c'est qu'en le signant, vous attirez l'attention sur deux choses. Premièrement, vous êtes un homme qui donnait la parole à trois femmes arabes. Et vous êtes un homme israélien qui donnait la parole à trois femmes palestiniennes. Deux signatures qui sont lourdes de sens pour nous, femmes qui nous occupons des femmes et qui savons bien que ce ne doit pas être très facile pour un homme de parler à des femmes arabes et pour tout un chacun intéressé par ce qui se passe dans le Moyen-Orient qui sait bien que ce n'est pas très facile pour un Israélien de rencontrer des Palestiniens et vice-versa, et de dialoguer. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer quel a été votre cheminement sur ces deux voies? Peut-être quel est le chemin qui a été d'abord le plus dur à prendre? Je ne sais pas, moi ce qui me surprend le plus, je ne suis pas sûre que ce soit celui de l'Israélien qui rencontre les Palestiniennes, alors que c'est peut-être certainement ce qui frappera le plus les gens. Moi c'est peut-être plus l'homme qui rencontre les trois femmes arabes. Mais pour vous, quel a été le chemin le plus dur dans ces deux voies?
D'abord, je tourne dans les territoires occupés depuis 16-17 ans, étant comme caméraman et producteur. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de, comme caméraman, avec beaucoup de réalisatrices femmes. Donc ce qui m'a plutôt sensibilisé vers le côté des femmes. Et j'ai voulu toujours faire des films sur des femmes. Et ce n'est pas le premier film sur la femme. J'ai fait un autre film qui s'appelle Nadia, sur une jeune fille palestinienne, en 84. Donc c'est le deuxième en tant que réalisateur sur les femmes. Mais j'ai beaucoup tourné de films en tant que caméraman avec des femmes, des réalisatrices femmes. Le plus dur n'a pas été de produire le film avec les Palestiniens. Ça, puisque je les connais depuis très longtemps, je viens d'une culture du monde arabe, je suis né au Maroc, donc ça m'a permis d'avoir ces sensibilités culturelles dans la musique, dans le choix des femmes, dans l'atmosphère du film, et qui a fait ce film, Voilà l'exil. Et puis il y a aussi la grande contribution de ma femme, qui s'appelle Sini Bardavid, qui est la monteuse du film, qui est la coproductrice, je l'ai connue pendant le tournage, et je repensais que c'est peut-être la plus grande contribution, ça vient d'elle. Que ce soit un film long, doux, délicat, avec un minimum de violence. Et ça n'a pas été facile de faire un film avec des femmes palestiniennes. Il fallait faire toute une longue recherche qui a duré très longtemps. Il fallait vivre dans les territoires occupés, dans les camps de réfugiés pendant un an. Il fallait passer par les hommes. Il fallait avoir l'accord des hommes. Il fallait être ami avec les hommes, les maris, les pères, les grands-pères, les frères. Une fois qu'on a eu cet accord dans la société palestinienne, qui est une société très conservatrice, on pouvait aller plus loin.
Mais vous y disiez hier soir dans le débat, ou très court débat qui a suivi la projection du film ici à Fribourg, qu'à l'origine, votre idée n'était pas de donner la parole aux femmes. C'est le silence des hommes, ou la langue de bois des hommes, qui vous a donné envie de donner la parole aux femmes.
C'est le manque de sensibilité des hommes dans le Moyen-Orient qui m'a fait comprendre que dans ces sociétés palestiniennes et beaucoup d'autres sociétés, en fin de compte, qui se trouvent en plein struggle, en plein lutte, contre l'occupation ou lutte sociale, la voix des hommes est une voix très politique, très dogmatique, très macho, et ça ne crée pas ni un scénario, ni un film. Ça ne faisait pas un film, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais dépasser tous ces slogans, tous ces mensonges. Et j'ai trouvé dans la femme, surtout la femme palestinienne, que c'est une femme très courageuse, très honnête, très intègre, très poétique en même temps, puisqu'elle garde un patrimoine culturel. C'est son rôle un peu dans la société palestinienne, alors que les hommes s'occupent de la guerre, de faire la guerre. j'ai trouvé quelque chose qui dépassait tout ça. J'ai trouvé une profondeur qui ne pouvait pas exister chez les hommes.
Pourtant, elles sont quand même très politisées parce qu'elles ont toute une conscience impressionnante sur la question Palestine-Israël et leur situation dans, politique et sociale dans ce contexte-là.
C'est ce qui est formidable chez les femmes palestiniennes. Autant, elles sont très politisées, elles se battent, elles luttent, elles font la prison comme les hommes, mais elles arrivent à garder quand même, à ne pas perdre ces sensibilités-là humaines. Et c'est ça qui m'a plus marqué, c'est ce qui m'a poussé à faire en fin de compte le film. J'ai rencontré un peu plus de 120 femmes, dont le choix n'était pas facile. J'ai choisi ces trois femmes pour deux raisons. Mais la raison la plus importante, c'est leur intégrité, leur honnêteté et la façon dont elles gardaient leur dignité en tant que femmes, en tant qu'êtres humains. Et elles faisaient aussi, elles étaient assez courageuses de faire un début d'une autocritique et ne critiquer pas seulement l'occupation israélienne, mais critiquer aussi leur société palestinienne pour ce qu'elle fait pour la femme palestinienne.
On y reviendra peut-être.
Donc, c'est un film sur, en fin de compte, c'est un film sur l'exil, mais sur l'exil, c'est un double exil, l'exil de la terre, de la vie natale, du passé, mais aussi l'exil intérieur dont ces femmes, qui ont tellement lutté pour la société, vivent en retournant, en sortant de la prison, vivent dans leur propre société. C'est un double exil.
Alors c'est justement de ça dont j'ai envie de parler tout à l'heure, mais il y a encore sur la deuxième signature qui peut surprendre l'homme israélien d'origine marocaine, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, par rapport à la situation peut-être des juifs marocains à l'intérieur de la société israélienne. L'homme israélien qui signe un film qui donne la parole à des femmes palestiniennes, donc avec une idée. J'ai lu dans une interview que vous auriez donnée dans un journal français que votre idée était de faire cesser les mensonges à cause des divers slogans que chacun utilise de chaque côté et d'essayer de transformer un petit peu la mentalité de la société israélienne, voire même de la société européenne si c'était possible. C'était derrière votre idée au moment où vous avez fait... Pensez à ce film ?
Je ne pense pas que j'ai eu une idée fixe, idéologique, avant de faire un film. Je ne marche pas de cette façon, je ne trouvais pas. Je sens des choses, je vais avec les tripes. J'ai fait toute une recherche, j'ai rencontré ces trois femmes. Et je les ai choisies, mais une partie de ces femmes ont choisi. La paysanne, par exemple. La paysanne, c'est-à-dire qui nous a choisi en fin de compte. Elle voulait faire ce film. Elle nous disait qu'elle était réfugiée pendant trois fois dans sa vie, trois guerres. Elle n'avait plus rien à perdre, elle veut parler. Et en fin de compte, c'est elle qui nous a choisi. J'avais pas une idéologie à la base avant d'avoir fait ce film. Il y a eu trop de films qui ont été faits, et trop d'articles par la presse écrite, trop de moments d'actualité qui montraient que la violence dans cette région-là, entre Palestiniens et Israéliens. Mais ils ne montraient pas du tout ce qui se passait dans ces sociétés, la mentalité, la culture, l'histoire. Et pour moi, j'avais envie de défendre ces sociétés à travers la culture. Un nouveau regard qui est très mal connu par l'Europe, mais qui est encore très mal connu par les Israéliens même, qui vivent à 10 km des Palestiniens. Donc c'était un choc. Mais je voulais aussi un peu créer quelque chose en Israël, créer une solidarité des femmes israéliennes vers les femmes palestiniennes, à travers l'émotion, à travers la poésie, à travers même l'amour, quoi. Et les réactions dans les salles, puisque le film est sorti commercialement pendant 5 semaines, dans les salles cinématographiques israéliennes, qui a un grand succès, les réactions des femmes israéliennes disaient que ça pouvait être nos mères, nos sœurs, en fin de compte, on ne les connaît pas. Parce qu'une image du Palestinien ou de la Palestinienne, étant terroriste, serveur de café, nettoyeur des rues, mais il n'y a pas une image profonde et complète d'un être humain. Ils n'ont pas été vus pendant plus de 100 ans comme des êtres humains. Et c'est ce que je voulais casser en fin de compte. C'est ces mensonges-là que j'avais envie de briser à travers le voile et l'exil. Je pense que ça a un peu quand même réussi.
Mais David Benchetrit, votre film est censé être un documentaire, ce qui n'est en général pas ce que les gens vont voir au cinéma. Alors, comment les gens font-ils le pas d'aller voir un documentaire ? Ou bien est-ce que vous en avez quand même fait dans les salles ou peut-être ailleurs ? J'ai entendu aussi hier soir que vous disiez qu'il passe dans les écoles, par exemple, maintenant. Que ce film est utilisé à la fois comme un documentaire et peut-être aussi comme un film de fiction, parce que quelque part, c'est presque une fiction, tellement on découvre une chose qu'on ne connaissait pas avant, l'histoire c'est trois femmes. Mmh.
Moi, je ne crois pas qu'il y a des films que documentaires. Je pense que tous les films, c'est des fictions. Il n'y a pas des films documentaires. Je n'y crois pas ça. Joris Evans, peut-être, était un des derniers. Mais il y a tout un nouveau cinéma, cinéma d'auteur documentaire, qui existe depuis 10 ans, qui est très apprécié, surtout en France et en Angleterre, qui est un cinéma d'auteur qui devient de plus en plus... un cinéma, enfin presque de fiction, c'est du documentaire, mais c'est de la fiction. On fait de la mise en scène, on manipule les choses pour créer des situations plus dramatiques, on fait bouger des choses. C'est pas du reportage télévision. C'est tout à fait à l'envers de ce que la télévision essaye de faire depuis, fait depuis toujours, à part Arte plutôt, quoi. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi le film a assez réussi, non seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis. Il a beaucoup attiré l'attention grâce à cette attitude que, d'esthétique, de beauté, de scène qui se raccroche très très bien. Pas de commentaires, c'est une signature, c'est-à-dire essayer de le voir différemment, comme que c'est vu un peu en France, comme un cinéma d'auteur.
David Benchetrit, vous parliez tout à l'heure donc de l'histoire de ces trois femmes qui vivent un commun exil qui est celui d'avoir dû partir, ou du moins leurs parents, parce que la plupart d'entre elles ne l'ont pas forcément vécu au premier degré, ont dû quitter la Palestine soit en 48, soit en 67. Mais ce qui frappe, c'est que finalement, le deuxième exil dont vous parliez tout à l'heure paraît presque plus fort, en tout cas m'est apparu en regardant votre film, presque plus fort que le premier. Celui, effectivement, de la femme arabe dans la société dans laquelle elle vit. On a beau être militante, engagée, on se retrouve comme toutes les autres femmes. Celui de la femme bourgeoise, riche, dont on se méfie, mais aussi parce qu'elle a vécu un certain temps en Israël, donc elle est devenue étrangère même dans sa propre terre pendant un certain temps, elle doit convaincre. Et puis la femme paysanne qui est hors de sa terre, qui se sent trahie par les siens qui ont vendu la terre, et qui en est même prête à rejeter les autres femmes jeunes parce qu'elle dit la terre c'est plus important. Est-ce que ce deuxième exil vous a surpris quand vous les avez entendues parler, ces femmes? Est-ce que vous vous attendiez à ce que finalement elles parlent de cet exil-là, qui quelque part est beaucoup plus une critique, pas du tout à Israël cette fois-ci, mais à leur propre terre?
Ça ne m'a pas surpris. Moi j'ai vécu ça personnellement. Ma mère est une de ces femmes. Et j'ai connu ma mère, elle a aussi souffert comme telle femme au Maroc. Donc... ça vient d'un début assez personnel. Je n'ai pas été très surpris. Je voulais faire un film qui est politique, mais qui est à la base d'une vie personnelle et dramatique, et qui garde une certaine poésie, et pas que des discours politiques. Donc, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été surpris peut-être de la force, de choc, de l'ouverture et de l'intégrité de ces femmes, d'aller au bout du discours social qu'ils avaient, de leurs problèmes personnels, avec un réalisateur israélien. C'est quand même assez étonnant. C'est que ça peut prouver tout à fait que le problème est très grave, en fin de compte, et beaucoup plus grave que le problème politique. Et tant que les femmes, tant que la société palestinienne ne résoudra pas aussi les problèmes des femmes, ils n'arriveront pas très loin. Peut-être qu'ils auront un petit État. Je crois qu'ils auront un État, mais un État très mesquin, très pauvre, avec beaucoup de misère et sans démocratie. Et ils font toutes les bêtises possibles que les Algériens ont fait. Juste après l'indépendance, ça se répète. Juste après l'indépendance de l'Algérie, les femmes ont été remises. Quelques années plus tard, 3 ou 4 ans, le système de Boumdian les a remis dans la cuisine. Là, avant que l'indépendance commence, l'OLP les remet déjà dans la cuisine. Et c'est très grave. Et je pense que l'OLP a fait des grandes bêtises là-dessus, parce qu'il n'a qu'à perdre. Il n'utilise pas 50% de cette population qui a contribué au maximum à la lutte des Palestiniennes, qui était dans la rue, qui a tout laissé. Des femmes qui ont fait la prison, qui ont mal nourri nos enfants, et tout pour la cause palestinienne.
Mais ces femmes, David Benchetrit, à votre avis, quand elles vous transmettent cette préoccupation tellement forte, et on sent, c'est vraiment très très fort quand elles parlent dans le film, elles espèrent quoi? Finalement, quand vous disiez, la paysanne, elle a choisi de faire ce film. Donc, qu'est-ce qu'elles espèrent au moment où elles vous parlent dans ce film? Parce que ce film, vous l'avez tourné avant un quelconque espoir de conclusion de paix, puisque c'était en 92. Donc, il n'y avait même pas ça dans leur tête. Mmh. À votre avis, qu'est-ce qu'elles espèrent quand elles parlent de cette façon-là ?